ain't nah. Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, c'est reparti. Enfin, salut Ghislain.
Salut Philippe, je suis content de t'entendre dire ça, tu peux pas savoir.
Ouais, moi aussi, je suis content de le dire en fait. Ça m'a manqué pendant 6 mois en fait. Hein.
Ouais, c'est ça.
On a fini d'enregistrer notre saison précédente, la 17e, en mars.
Ouais.
Saison tronquée donc.
Saison, oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais, il nous manquait au moins 3 ou 4 émissions. Parce qu'on n'avait pas fini. De ce dont on avait envie de parler.
Qui était
la fin d'un monde. On a eu du nez quand même.
Ouais, je trouve. On a beaucoup d'intuition à SLP.
Et comme on est frustré de ne pas avoir épuisé notre sujet, on va pas le reprendre, on va le prolonger. Et je te propose qu'on se fasse une année après la fin d'un monde, vient... Le monde d'après.
Une année sur le monde d'après. Ok, d'accord.
Une année sur le monde d'après, est-ce que ça te va ?
Moi, ça me va très bien, ouais, bien sûr.
Bon, d'autant qu'il a... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais un petit peu de difficulté à émerger, ce monde d'après, quand même.
Il ressemble furieusement au monde d'avant, en pire. Hein.
Déjà, oui. Alors, on va être un petit peu dans le constat, je pense, effectivement, pendant cette saison encore, mais tout en essayant quand même de se donner un peu de perspective et d'espoir, parce qu'on en a bien besoin, quand même.
Oui. Oh, il y a toujours de l'espoir. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, mine de rien, se sont passées et qui vont dans ce que j'appellerais le bon sens.
Ouais. Bon, et quand même, comment tu as vécu ce confinement, déconfinement ?
Moi, j'ai été très frustré pendant le confinement parce que moi, j'étais pas confiné.
tu faisais partie des gens qui étaient sur le pont,
c'est ouais, ça ? Ouais, qui étaient obligés d'aller bosser. Alors, sur le pont, j'étais... très protégé, d'accord, mais...
Mais tu faisais partie des premiers de corvée, c'est ça ?
C'est ça, ouais, c'est-à-dire nous, moi j'ai été obligé de bosser, alors on était 4 sur le poste sur lequel je bosse, on s'est retrouvés à 2, donc on a fait nos petits horaires à nous, nos petits trucs comme ça, mais j'allais bosser, j'étais pas confiné. J'avais que des longs week-ends, mais j'avais pas de...
Tu allais travailler.
Mais j'allais bosser, quoi. Voilà, donc j'étais pas hyper confiné. Quoi.
D'accord.
Alors que moi, je rêvais que de ça.
Ouais.
Moi, je rêvais, tu vois, de me poser sur mon canapé avec un bouquin, de enfin prendre le temps, tu vois.
Bon, il y avait des gens qui étaient confinés, mais qui étaient en télétravail, hein, quand même, qui ont bossé comme des malades. Mais pas tous, c'est vrai, pas tous. C'était mitigé, moi, parce qu'effectivement, je faisais partie de ces professions qui n'étaient pas directement concernées. Enfin, je ne bosse pas dans le milieu médical comme toi, mais dans la banque, puisque c'est là que je travaille. On était un peu sur le pont aussi, donc moi, j'ai, pendant... plusieurs semaines, j'ai eu des horaires de travail quand même assez de longues journées, notamment pour traiter de trucs passionnants comme des prêts aux entreprises, les PGE, les fameux prêts garantis aux entreprises, les reports d'échéance, voilà.
Et, que des trucs qui font rêver.
Que des trucs qui font rêver. Mais voilà, j'essayais de faire ça à bon escient tout en avantageant ceux qui méritent de l'être, quoi. Les petites entreprises et les petits particuliers qui ont besoin à un moment de vivre.
Tout simplement.
Tout simplement. Mmh. Mmh. Voilà.
Ça, c'était le confinement.
Ouais.
Après, d'autres l'ont vécu autrement, certainement.
Ouais, tout à fait. Bon, on aura l'occasion d'en parler, je pense.
Et le déconfinement était plus difficile.
Pour toi ?
Ouais.
Ouais.
J'ai trouvé que c'était beaucoup plus le bordel, le déconfinement, que le confinement.
Et finalement. Le bordel n'est pas fini.
Et le bordel continue, bien sûr.
Mmh, parce que c'est vrai que... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on est... même s'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas changé dans le fond... Sur la forme, c'est vrai qu'on a, on traverse des moments avec un grand caractère quand même d'imprévisibilité sur la façon dont les choses peuvent évoluer. Bah, y a la contrainte de ces masques hein, qui sont apportés. Et je ne sais pas, alors comment dire, moi j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus. C'était le cas avant, mais ça s'est renforcé dans un monde où il y a une sorte de binarité dont il est extrêmement difficile de s'extraire. C'est-à-dire que tu es soit masque, soit anti-masque, soit pro-vaccin, soit anti-vaccin. Tu es soit dans la doxa gouvernementale, soit tu es un rebelle ou pire un conspirationniste,
ouais, un contestataire
voilà. Tu es pour évoquer des choses récentes, tu es pro G5 ou en gros
5G.
Voilà,
ou
t'es un amiche voilà qui utilise la lampe à huile, c'est complètement voilà. Hallucinant.
Que ce soit un président de la République qui dit ça, oui, c'est complètement hallucinant.
Ouais.
Après, la société, elle était en train de se radicaliser beaucoup quand même. Oui. Et je trouve que ça s'est encore accentué, que cette binarité, elle est aussi complètement radicale.
C'est là où, à un moment, je pense qu'enfin, on aura l'occasion de l'évoquer plus précisément. Alors moi, ce côté radical, je le trouve intéressant quand il est porté par certaines personnes qui font preuve, enfin qui alertent sur des sujets sur lesquels on a besoin d'être alerté et qui remettent les choses vraiment en perspective et qui savent identifier là où sont les urgences. Et puis à côté de ça, tu as des gens qui se radicalisent et qui sont dans de gros délire, quoi.
Ouais, dans
et c'est compliqué de faire parfois la part des choses et d'arriver à... alors, je trouve que ce qui se complexifie aussi, c'est les relations que tu peux avoir avec les gens qui sont proches de toi, hein, famille, amis. Il y a des tensions qui se créent.
Qui se créent, oui.
Qui n'existaient pas forcément avant ou qui étaient latentes et qui se font jour.
Mais c'est pour moi, la radicalité, c'est ce qu'elle amène. Parce que la radicalité, elle amène aussi beaucoup d'incompréhension de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... se mettre un peu à la place de l'autre pour voir d'où il parle et du coup comprendre qui il est et pourquoi est-ce qu'il pense comme ça, etc. Et c'est là où l'échange est intéressant. Et quand tu es dans une radicalité, tu n'es pas capable de faire ça.
Si tu es effectivement, si tu es dans une radicalité qui devient une sorte de doxa dont tu ne t'échappes pas, effectivement, là, de toute façon, il n'y a pas d'échange possible.
Bah, non. Et de plus en plus, on est là-dedans.
Ouais. Ce que je te propose,
vas-y,
c'est qu'on écoute quelqu'un qui porte une forme de radicalité que moi j'ai beaucoup écouté pendant le confinement et j'ai envie qu'on le réécoute aujourd'hui. Je crains qu'on l'entende de moins en moins parce que pour moi, il fait partie quand même de ces gens qui sont des éclaireurs et même si leur discours... son discours peut déplaire à certains... il sonne l'alerte et c'est pour moi absolument nécessaire dans le monde dans lequel on est. Alors je pense que c'est pas forcément facile de porter une parole comme il la porte parce que du coup il est extrêmement clivant et par rapport à ce que j'ai entendu de ses dernières interventions, je pense qu'il va avoir envie de se mettre un peu en retrait parce que c'est quand même compliqué à porter.
C'est qui ?
C'est Aurélien Barreau,
oh,
l'astrophysicien. D'accord. L'astrophysicien.
Ouais, astro, ouais.
Et on l'écoute. Il intervient, ça date du mois d'avril dernier, à l'Académie du Monde d'après de Pablo Servigne. Et ça dure 8-9 minutes. Je te propose qu'on écoute ses propos.
Bien, bonjour à tous, bonjour Pablo Servigne et merci beaucoup pour cette belle invitation et grande initiative. Donc nous sommes en pleine crise Covid-19, autour de nous la désolation, parce que nous voyons des proches ou des amis hospitalisés, parfois même mourir. Le grand philosophe Jacques Derrida le rappelait en évoquant le décès de ses amis, chaque fois unique, la fin du monde. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à cet état tragique que nous traversons. Pourtant, on voit en parallèle émerger un certain nombre de solidarités impromptues, de connivence, d'amitié, d'entraide. Et ça, bien sûr, c'est une très belle chose parce que nous sommes en quelque sorte contraints de réinventer notre manière d'interagir et de re-hiérarchiser nos priorités. Ce qui s'impose aussi, je crois, avec une certaine évidence, ce sont ces professions oubliées, qui ne sont généralement pas valorisées et qui pourtant nous apparaissent aujourd'hui comme les plus fondamentales, les plus vitales à la continuité, dirais-je, existentielle de notre capacité tout simplement à être. Bien. Mais de façon peut-être plus profonde, plus subreptice et plus puissante, ce qui émerge également, ce sont ces immenses puissances de réaction économique, politique, financière, etc., qui n'ont qu'une obsession, un objectif parfaitement clair, défini et annoncé, faire en sorte que très vite, les choses redeviennent comme avant. Alors, scrutons-le une minute, ce monde d'avant, ce monde si désirable, ce monde parfait vers lequel il voudrait à tout prix nous réemmener le plus vite possible. C'était quand même un monde dans lequel, du côté des humains, dirais-je, 25 000 personnes mouraient de faim chaque jour. 25 000 personnes, c'est ce qu'a tué le coronavirus en plusieurs mois. Nous étions, quand tout allait bien, dans ce monde parfait vers lequel il faut nous tourner, nous étions à 25 000, à peu près, morts de faim en moyenne par jour. 25 000 morts de la pollution par jour. Plus d'un million de personnes mortes chaque année du paludisme. C'est cela, le monde où tout allait bien ? Et ça ne touche pas, bien sûr, que les pays pauvres, que les pays victimes d'ailleurs tendanciellement d'une forme de néocolonialisme occidental. Même dans les pays riches, plusieurs d'entre eux étaient déjà touchés par une espérance de vie qui diminuait. Les conséquences en termes de santé publique de l'activité anthropique étaient déjà tout à fait considérables. Du point de vue des autres vivants avec lesquels nous partageons ce qui reste de cette planète, la situation était tout aussi catastrophique. Nous avions éradiqué l'essentiel, plus de la moitié des forêts. En 4 décennies seulement, nous avions tué 60% des populations d'animaux sauvages. En une seule décennie, nous avions effondré la biomasse, dont la branche du vivant qui comporte le plus d'individus et le plus d'espèces, des 2/3 environ. C'est un chiffre faramineux, impensable dans son incommensurabilité du point de vue de la gravité. Nous étions donc dans les prémices d'une métacrise qui, hélas, fera passer l'épisode Covid-19, pour tragique qu'il soit, comme une plaisanterie au regard de ce à quoi nous sommes en train, ce vers quoi nous sommes en train de nous acheminer. Et soyons bien clairs, ce n'est pas une peur collapsologique du futur. C'est déjà un constat sur ce qui vient de se passer dans les dernières décennies. Ça a déjà eu lieu. Nous sommes déjà, non pas comme on le dit parfois, dans la 6e extinction massive, mais dans la 1ère extermination radicale et délibérée de la vie sur Terre. Alors, soyons bien clairs, on ne veut pas revenir au monde d'avant. On ne le veut pas parce que nous souhaitons vivre, et on ne va pas se laisser faire, parce que cette bouffonnerie a suffisamment duré. On ne peut plus laisser le monde mener par des gens qui n'ont pas compris la situation, par incompétence ou par machiavélisme. Je ne me prononcerai pas, peu importe, ça ne change rien finalement. On ne peut plus continuer. Voyez-vous, certains économistes, la plupart, disons les mauvais économistes, appellent croissance ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme dit Jean Covici, c'est tout à fait inepte. Et je rajouterais, ça c'est moi qui le dis, c'est profondément stupide. Parce que nous sommes en train de détruire notre capital de départ, c'est-à-dire la capacité à vivre dans un monde où l'existence est possible. C'est pas une croissance, ça. Du point de vue physique, c'est-à-dire du point de vue réel, c'est une décroissance. Il n'y a pas de réalité économique. Ça n'existe pas. Il n'y a que des conventions économiques. D'un claquement de doigts, on peut les changer. On ne pourra pas revenir en arrière sur le CO2 émis. Ce qui est là pour toujours, aux échelles du temps qui sont pertinentes pour l'humanité, Il n'y a aucun retour en arrière possible. Alors, il va être temps d'être un peu sérieux. Être un peu sérieux. J'ai lu ce matin qu'un membre de la majorité appelait comme une mesure d'urgence la relance de la publicité et de ce monde parfaitement factice et artificiel qui est présenté pour soutenir une croissance qui est tout aussi factice mais dont les effets délétères sont bel et bien réels. On ne veut plus continuer cette partie de Monopoly, voyez-vous, dans un avion qui est en train de se crasher. Ils veulent continuer à jouer. Nous voulons continuer à vivre. Donc, ça ne va pas être simple, mais ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, je crois qu'il faut annoncer la couleur parce que maintenant, ça devient nécessaire. On ne peut pas être les victimes collatérales de personnes qui n'ont simplement pas compris les rouages fondamentaux de l'existence. Bon, changer les règles du jeu, n'importe quel enfant sait le faire quand la partie devient injouable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne pourra pas faire revivre les espèces éteintes. On ne pourra pas faire revivre les morts. On ne pourra pas épurer le CO2. Mais on peut changer des règles qui sont tout à fait aberrantes, qui sont socialement injustes, qui sont écologiquement dramatiques, qui sont climatiquement suicidaires. Ça, on peut le faire. Ça ne tient qu'à nous, mais il faut le faire maintenant, il faut le faire vite, il faut le faire bien, et il faut le faire avec intelligence. C'est-à-dire en osant regarder les choses en face, au-delà de ce qu'on apprend à l'ENA ou à Sciences Po. C'est-à-dire en regardant les réalités physiques, climatiques, médicales, et pas seulement les conventions arbitraires de la politique et de l'économie qui relèvent quand même d'une grande tartufferie. Ça ne nous intéresse plus. Nous voulons maintenant un peu de sérieux. Voilà, c'est cela pour moi. Le maître mot, ça va être difficile. Hein. À chaque fois qu'on a un été caniculaire, on se dit « bon là, ils vont comprendre ». Mais non. À chaque fois qu'on a des incendies dévastateurs, on se dit « là, ils vont comprendre ». Mais non. Nous avons une pandémie dramatique, on se dit « ils vont comprendre ». Mais non. Un grand nombre de leaders continuent aujourd'hui de vouloir revenir au monde d'avant avec, si possible, un peu plus de croissance encore, mais de cette fausse croissance, cette croissance du PIB qui est en réalité une décroissance, non seulement de tout ce qui fait sens du point de vue existentiel dans cette vision purement gestionnaire de l'existence, qui est une aberration ontologique du point de vue de ce qu'est la vie, mais qui est aussi une stupidité du point de vue de notre capacité de survie. Alors, je ne serai pas un des leaders politiques du monde de demain, donc j'espère que ceux qui s'attelleront à cette tâche seront fougueux et ambitieux, mais à mon humble mesure, je ne laisserai pas le monde revenir à son état initial. Je souhaite que la vie poursuive, que la vie soit chatoyante et solidaire, et pour cela, c'est le moment ou jamais de devenir un peu sérieux.
Un peu de sérieux, quoi.
Un peu de sérieux, c'est vrai.
Hein quoi. J'adore comment il scande ça. C'est intéressant, en fait, qu'il utilise ce terme, parce que c'est vraiment un des mots qui revient beaucoup dans ses interventions, que je trouve... Enfin, c'est un mot presque désuet, je dirais. On vit dans un monde où, en gros, il est de bon ton d'être drôle... ironique, pour pas dire cynique, et lui, il parle de sérieux en utilisant ce terme vraiment au premier degré, quoi.
Oui, et il l'utilise en fait, j'allais dire, à contresens de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, c'est le côté très, on va dire, mainstream de l'économie, de la politique, qui est sérieux, et tout le reste qui est futile, qui est, voire... sans fondement, etc.
Tout à fait.
Et lui, non, il le met, c'est l'inverse pour lui. C'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui n'est pas mainstream. C'est voilà, dans le moule qui est sérieux.
Ouais, c'est ça.
Et les autres qui ne le sont pas, qui sont utopiques, qui sont des utopies. C'est vachement intéressant.
Oui, effectivement.
Et je comprends ce que tu disais sur sa radicalité. Ouais. Ce que j'ai écouté de lui était moins radical que ça. Mm-hmm. Là, il va fort.
Bah, je pense que c'est aussi... bon, il a fait cette intervention, c'était mi-avril, donc on était déjà confinés depuis plus d'un mois, en pleine crise, une crise bon, voilà, qu'on aurait pu peut-être pas éviter, mais en tous les cas vivre autrement. Donc ça a sans doute radicalisé son propos, ses positions. Voilà, c'est pas le seul en fait à avoir réagi comme ça, mais je trouve... c'est important d'entendre des voix comme la sienne. En plus, qui sont... je pense qu'il faut être assez fort aujourd'hui pour pouvoir porter une parole comme la sienne. Je crains, comme je le disais avant qu'on écoute ses propos, qu'ils se mettent un peu en retrait, parce que je pense que c'est intéressant. Quand tu vas sur YouTube, alors il a sa propre chaîne, la partie commentaire est désactivée. Je pense que c'est lui qui le fait automatiquement, parce que sinon c'est un tombereau. C'est pas anodin.
Non.
C'est pas anodin.
Mais c'est très bien, parce que c'est insupportable, les commentaires.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant avec lui, c'est la place d'où il parle, en fait, je trouve. Et parce que son message, il y a plein de gens qui le portent et qui le vivent. Mais lui, il le fait de sa place d'astrophysicien, avec sa culture, avec cette légitimité-là, en fait. Mmh. Et cette, légitimité scientifique.
Oui.
Tu vois, c'est-à-dire c'est pas un hurluberlu, hein.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, il a la force que lui donne justement sa place d'astrophysicien.
C'est aussi pour ça, je pense, que sa parole peut être.
Mais qu'elle porte, du coup.
Elle porte et elle peut être très dérangeante, hein, parce qu'il est d'une totale légitimité dans ses propos.
Ah bah, oui. Et son analyse est très claire et très accessible.
Mm-hmm. Pause musicale rapide. Ouais. Et on revient pour conclure cette première émission.
Yeah.
C'était chouette,
c'est
ça.
C'est bien, ça. Ouais. Ella Minus. Oui. Bah, je te laisse le soin de...
Oui, parce que j'ai chasamé. Fielo Noes de Nadie.
Qui veut dire...
Le ciel est à personne.
D'accord. Et du coup, il y a un album qui sort et qui s'appelle Acts of Rebellion.
Oh.
Ça tombe bien.
Intéressant.
5 minutes à peu près pour conclure cette première émission. De quoi tu as envie de parler ?
De quoi j'ai envie de parler ?
Maintenant et dans les prochaines émissions.
Ah, dans les prochaines émissions. Alors moi, il y a un truc là qui me titille. J'ai envie de parler des féministes d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et je pense qu'on fera un truc dans l'année, je ne sais pas quand exactement.
Ouais,
parce
qu'il
se passe plein de choses. Mmh. Il y a eu un texte de Mazarine Pinjot, il y a eu l'action à la mairie de Paris sur les interventions contre Christophe Girard, etc. Et il y a eu un truc qui me froisse beaucoup, c'est contre Guy Hockenheim.
Ouais.
Voilà, où ils ont fait, un groupe féministe a fait en fait enlever la plaque en hommage à Guy Hockenheim à Paris et la mairie.
Je suis pas au courant de ça.
Si, ah, et la mairie de Paris a dit qu'il la remettrait pas. Ils l'ont fait enlever parce que c'était apparemment quelqu'un qui fréquentait
Gabriel Matzneff.
Voilà, et que il aurait eu des propos qui justifieraient la pédophilie.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et que du coup, elles ont fait une action contre Guy Hockenheim.
Okay.
Et c'est quelque chose qui me... Mmh. Voilà,
on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Pareil, là, en gros, c'est compliqué. Pareil, très binaire, quoi.
Ouais.
Les discours que je peux entendre des unes et des autres, je peux m'y retrouver. Et en même temps, voilà, tu sens qu'il y a... J'ai entendu, par exemple, il y a quelques jours, chez Augustin Trapenard sur France Inter, Lio.
Ouais.
Qui a toujours été un personnage qui m'a été sympathique dès son début de carrière, parce qu'elle a amené quelque chose de frais, de nouveau. Moi, j'étais ado, je suis un peu moins âgé qu'elle, quoi. Et c'était une voix dans le sens propre comme au sens figuré que j'aimais entendre. Et je trouve son évolution assez étonnante. Elle fait partie justement de ces gens qui arrive à naviguer dans des milieux complètement différents et qui garde une certaine légitimité, c'est-à-dire qu'elle peut faire des tournées avec les anciens du top 50 et en même temps, elle a auprès de certains une aura un peu d'intellectuel. Mm-hmm. Et là, notamment, elle fait des lectures. C'est pour ça qu'elle était invitée chez Trapenard d'auteurs féministes. Elle était extrêmement émouvante dans ses propos. Tu sens que c'est quelqu'un qui est à plus de 50 ans encore à fleur de peau, qui a des combats féministes très, très engagés. Et il y a aussi chez elle une forme de radicalité qui la pousse parfois à prendre des positions qui peuvent être... choquante, perturbante. Là, elle a fait des sorties sur Schiappa que je partage. Hein. Mais du coup, il y a une violence et tu dis en fait, je suis d'accord sur le fond, mais est-ce que ça doit prendre cette forme-là ?
Cette forme-là, ouais.
C'est...
En même temps, à force de subir tellement pendant des années, de se dire
exactement,
ça
c'est
va
ça.
Avancer quand même, etc. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas poussé à la radicalité?
Exactement.
Aussi.
Non, mais je comprends
c'est la
tout
même
à
chose
fait.
Pour l'écologie, je
oui,
trouve.
Oui, oui, mais je comprends tout à fait d'où elle parle et pourquoi ça prend cette forme-là chez elle.
Moi, ce qui m'inquiète plus là-dedans, c'est plus le côté conservateur et le côté où tout à coup, là, ce truc de Guy Hockenheim, ça m'embête vraiment parce que je trouve que nos combats vers l'égalité des droits pour les homosexuels et pour les femmes, ça, pour moi, ça a toujours fonctionné ensemble.
Ouais, on est d'accord.
C'est sur la même route et que là, tout à coup, il y a une attaque contre une figure, on va dire, emblématique et une des rares figures positives. Je trouve que
une des premières en plus, en tous les cas en France, de ce combat-là.
Et je trouve que c'est quelque chose qui, moi, me choque et me touche beaucoup.
Ouais, ouais. J'entends ça. Bon, à promis, on y reviendra.
Ouais.
On y reviendra. Et
toi, de quoi tu as envie de parler?
Moi, j'ai envie qu'on continue à parler de ce qu'on a évoqué, notamment dans les émissions de février et mars dans les dernières, c'est comment faire société différemment et comment réussir à rencontrer cette classe politique qui aujourd'hui est totalement nuisible. Moi, je ressens plus que jamais que le monde, en fait, se répartit entre les dominants, les dominés. J'ai envie qu'on reparle de lutte sociale, de conflit de classe, parce que je pense que même si ça s'est déplacé, on est encore là-dedans, quoi. Et que, en gros, aujourd'hui, cette classe de dominants qui... Ils ne sont pas forcément extrêmement nombreux. On a évoqué l'année dernière, en parlant de Vandana Shiva, de ces fameux 1%.
1%, oui.
Ça peut paraître un peu complotiste, cette histoire, mais encore une fois, je pense qu'il faut arriver à en parler de façon claire, argumentée, pas cibler des catégories de personnes spécifiques, mais réussir à comprendre comment tout ça s'est mis en place, et c'est quelque chose dont je pense qu'on est extrêmement prisonnier aujourd'hui. Et donc ces luttes comme ça d'émancipation, de comment on peut reprendre le pouvoir aujourd'hui, elles sont essentielles. Il faut absolument qu'elles soient menées, et surtout que cette lecture qu'on fait du monde, de la société, soit le plus partagé possible, pour qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent. Voilà de quoi j'ai envie de parler, moi.
C'est cool, tu as diffusé la bonne parole.
Bon, on s'arrête là pour cette première émission.
Ouais.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.